Un voyage sur autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de Traverse, je vous propose de vous échapper quelques heures pour partir à la découverte de maisons d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à Paris, visiter la maison d'Honoré de Balzac. Elle fait partie de ces trésors cachés dont Paris a le secret. Au 47 de la rue Raynouard, dans le 16e arrondissement, une petite maison au volet vert et au toit d'ardoise fait face à la Seine. Depuis le trottoir, on ne la remarque même pas. C'est sans doute pour cette raison que Balzac s'y installe au milieu des années 1800. Accablé par les dettes, l'écrivain en fera son refuge secret. La maison transformée en musée en 1908 est la seule demeure parisienne du romancier qui subsiste aujourd'hui. Pour la découvrir, j'ai rendez-vous avec son directeur, Yves Gagneux. Bonjour Yves Gagneux.
Bonjour.
Vous m'accueillez aujourd'hui ici à la Maison Balzac, vous êtes le directeur de la Maison Balzac. On est ici dans les beaux quartiers de Paris. Ce qui est très surprenant, c'est que dès qu'on arrive, on a l'impression d'être dans une bulle, une sorte de village. Où sommes-nous exactement ?
Et nous sommes véritablement dans un village, nous sommes dans l'ancien village de Passy. C'est là où Balzac est venu se réfugier en 1840, en fuyant les créanciers qui menaçaient de prendre la propriété qu'il avait achetée sans avoir le premier centime pour la payer près de Sèvres. Donc Balzac va se réfugier dans un petit 5 pièces au sein d'un grand ensemble du 18e siècle qui avait été découpé en appartements. Et il va rester 7 années dans cet endroit-là, entre 1840 et 1847.
La maison est très belle, est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, c'est une maison très étonnante avec des volets verts qui est sur de plein pied sur un jardin. Et surtout, c'est une maison qui est complètement à flanc de collines, à flanc de falaises véritablement. Nous sommes sur les coteaux de la Seine et il fallait à l'époque rentrer dans un hôtel particulier qui a été rasé, monter à l'entresol, puis descendre deux étages pour se retrouver en haut de la maison. On entrait dans cette maison, disait Théophile Gautier, un ami de Balzac, un peu comme le vin entre dans les bouteilles.
Balzac vit ici sous un pseudonyme, je crois.
Oui, Balzac, étant poursuivi par les créanciers, ne tenait surtout pas à être identifié. Et donc, il a, comme sa femme de ménage s'appelait Madame Brognot, il a décidé de louer au nom de Monsieur de Brognol, parce qu'il ne tenait quand même à la particule. Même s'il lui-même n'était pas noble d'origine, il considérait que, en tant qu'artiste, il avait droit à la particule, puisqu'il relevait de l'aristocratie de la pensée. Donc, il va se cacher pendant 7 années, et au bout de 7 années, il va déménager, quitter cet endroit qui va être loué et reloué et reloué et reloué, et s'installer cette fois-ci dans Paris, dans ce qui était à l'époque la rue Fortuné, qui est aujourd'hui la rue Balzac, dans un hôtel particulier qui a été rasé dans les années 1880.
Il y a une vue incroyable quand on est dans les jardins sur la Tour Eiffel. Alors évidemment, Balzac ne l'a pas vue puisque la Tour Eiffel n'était pas construite, mais la maison elle est connue pour ça aussi aujourd'hui.
Oui, mais Balzac profitait de ce jardin, il en parle, c'est là où il va se reposer et il avait une maison qui était entre cour et jardin et en même temps qui était invisible depuis la rue. Donc il avait tous les avantages et il va cueillir des petites violettes qu'il va envoyer à sa correspondante en lui expliquant que ce sont les violettes qui ont poussé dans l'atmosphère carbonique de Paris. La pollution n'a rien inventé.
Le musée aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez m'emmener voir là ?
Aujourd'hui, je vous emmènerai voir ce qui est l'appartement de Balzac autrefois, mais que nous ne présentons pas comme un appartement. En fait, nous avons considéré que le musée de type lieu de pèlerinage où les gens qui connaissent déjà l'écrivain, sa vie, son œuvre vont se ressourcer n'était plus adapté au public d'aujourd'hui et nous avons voulu en faire un lieu d'incitation, un lieu qui permette aux gens, aux visiteurs de comprendre en quoi Balzac était un écrivain actuel, un écrivain universel, un écrivain qui transcende les lieux, qui transcende les époques, un écrivain qu'il faut lire. Et l'objectif pour nous, c'est que le visiteur, en sortant du musée, n'ait qu'une envie en tête, c'est de lire ou de relire Balzac.
Vous m'avez donné envie, on y va ?
Allons-y.
Me voilà embarqué dans un dédale d'escaliers et de couloirs étroits. La visite commence par l'ancienne salle à manger. La table et la vaisselle ont disparu depuis bien longtemps. La pièce est aujourd'hui consacrée à la comédie humaine, la grande œuvre à laquelle Balzac a travaillé sans relâche dans cette maison.
Alors, la comédie humaine est un titre que Balzac donne pour l'ensemble de son œuvre, mais c'est bien plus que cela. C'est aussi un projet qu'a Balzac de faire l'équivalent pour les espèces sociales de ce qui avait été fait pour les espèces animales par les grands naturalistes à la fin du XVIIIe siècle, comme Buffon ou Cuvier. Donc Balzac va proposer une classification des espèces sociales. Il va trouver à Passy, donc dans ces lieux, le titre « La comédie humaine ». Il va du coup tout réécrire les romans qu'il avait écrits. Il va commencer à compléter ce projet. Lui, il voulait faire 150 romans. Au total, la mort l'empêchera d'aller si loin. Il en fera à peine une centaine. Mais c'est déjà important. Et ici, il va vraiment compléter son œuvre en écrivant les ouvrages peut-être les plus beaux, comme Le Cousin Ponce, La Cousine Bête, La Rabouilleuse, Splendeur et misère des courtisanes, Les Paysans, etc. Et il va tout réécrire pour inclure l'ensemble de son œuvre dans ce projet formidable.
C'est un projet colossal. 2500 personnages, c'est bien ça?
Oui, 2500 personnages, des personnages connus, des personnages vivants, des personnages qui commencent au XIVe siècle et qui iraient jusqu'à aujourd'hui si Balzac était encore vivant, puisque un projet de classification, c'est les espèces animales, c'est les espèces sociales, c'est pareil. Balzac ne connaissait pas, par exemple, le type du bobo. Aujourd'hui, il ferait le roman du bobo. Il ferait le roman du geek. C'est évident. Et puis, il y a des espèces sociales qui existaient du temps de Balzac et qui ont disparu, de même que certains animaux existaient au XVIIIe siècle et n'existent plus aujourd'hui.
C'est un observateur de son temps.
C'est surtout un analyste. En fait, ce qui est intéressant chez Balzac, ce n'est pas tant ce qu'il décrit que la façon dont il décrit les choses. Et c'est ça qui rend Balzac extrêmement populaire à l'étranger. C'est en Chine qu'il y a le plus grand nombre de lecteurs de Balzac. Et vous imaginez bien que quand les Chinois lisent Balzac, ce n'est pas par intérêt pour la société française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Non, c'est parce que en prenant l'analyse de Balzac et en l'adaptant, en la déplaçant sur leur monde, ça leur permet de comprendre la Chine d'aujourd'hui. Et quand on connaît les règles du jeu social, eh bien, on perd beaucoup moins de parties. Or, les parties sociales, contrairement aux jeux vidéo, on ne peut pas recommencer.
Étonnamment moderne, ce Balzac, finalement.
D'une modernité complète. De toute façon, c'est un écrivain qui est hors du temps, hors des lieux. Balzac est d'hier, il est d'aujourd'hui, il sera de demain, et il est aussi brésilien, chinois que français. Il ne faut pas y voir un écrivain français du 19e siècle, ce serait une erreur gravissime.
On poursuit. Vous m'emmenez où ?
Je vous emmène voir les personnages de la comédie humaine.
Allons-y. Alors, il n'y a pas les 2500 personnages, je crois, sont pas recensés ici. On en a combien ?
Alors ici, on n'apercevra que, si j'ose dire, 450 personnages à peu près sur les 2500 qui composent la comédie humaine, parce que tout simplement, nous n'avions pas la place. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnages très vivants qui vous regardent. Ce sont des plaques qui ont servi à l'impression de gravures dans des éditions illustrées de Balzac. Certaines sont contemporaines de l'écrivain, d'autres sont plus récentes, mais ça donne une idée du foisonnement de cet univers et surtout de la variété, puisque quand on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des personnages bien connus de ceux qui ont lu Balzac, comme Rastignac, Vautrin ou Eugénie Grandet, mais on trouve aussi Jésus-Christ, c'est peut-être un peu moins attendu, on trouve le poète italien Dante, on trouve même des anges, l'ange Serafita. Voilà, donc encore une fois, Balzac, ça n'est pas que le 19e siècle, Balzac fait commencer la comédie humaine au 14e siècle, il y a des romans au 15e, au 16e, au 17e, au 18e siècle. Et encore une fois, ça a vocation à être poursuivi aujourd'hui.
Balzac va droit au but. Il saisit corps à corps la société moderne, dira Victor Hugo, aux funérailles de l'écrivain en août 1850. La salle à manger présente aussi une généalogie des personnages balzaciens, l'occasion de noter que certains d'entre eux figurent dans plusieurs romans. Balzac a inventé le concept des personnages reparaissants. Saviez-vous par exemple que Rastignac était présent dans 28 ouvrages du romancier ?
En ce moment, l'une de ces deux chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême, à Paris, pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se soumettait aux plus dures privations afin de lui envoyer 1200 francs par an. Eugène de Rastignac, ainsi se nommait-il, était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux, et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études, et les adaptant par avance au mouvement futur de la société pour être les premiers à la pressurer.
La visite se poursuit. Je pénètre dans une petite pièce au mur tendu de tissu rouge pour découvrir l'intimité créatrice de l'écrivain. Là, on arrive dans la pièce phare de la maison, on peut le dire, en tout cas une pièce très émouvante. On est au cœur du travail de Balzac.
Oui, véritablement. Là, nous sommes dans son cabinet de travail. C'est une pièce dont on est absolument certain. Et là, on y retrouve un certain nombre d'objets personnels, ceux auxquels Balzac tenait le plus. Et notamment, cette petite table. Elle est toute petite, cette table. Elle est vraiment pas grande du tout. Et c'est là-dessus que Balzac a écrit toute son œuvre. Il l'a promenée de domicile en domicile. Il en parle En termes émus, il va écrire à sa correspondante « Mais je l'ai eu cette table, je l'ai usée de mon coude ». Et pas seulement, d'ailleurs on trouve aussi, si en regardant bien, des petites traces d'enfoncement. Vraisemblablement, Balzac a dû redresser plusieurs fois sa plume pour écrire. Elle est tellement petite qu'on voit bien qu'il n'y avait pas moyen de faire des notes. Donc il faut s'imaginer Balzac arrivant à cette table à minuit. Il se fait réveiller à minuit, il se met ici, il y a un bougeoir avec 3 ou 4, 5 bougies, sa cafetière, sur laquelle il ne peut pas travailler la nuit, son encrier, du papier, et Balzac va travailler tout seul dans la nuit, dans ce petit village de Passy, de minuit à 8h du matin. À 8h, il s'arrête, il va faire sa toilette, déjeuner, s'habiller, l'imprimeur arrive, emporte tout ce qui a été écrit pendant la nuit, et va laisser à Balzac ce qui a été imprimé la veille au soir. Balzac se remet à sa table à 9h du matin, et va commencer à corriger ce que lui a laissé l'imprimeur, et ça va l'amener jusqu'à 6h le soir. Là, il s'arrête, il dîne, il fait une petite promenade, fait sa correspondance, se met au lit à 8h, 4h de sommeil bien mérité, et on recommence. Et ce rythme-là, Balzac peut le tenir pendant des semaines. Alors, ce qui est passionnant dans cette petite pièce, c'est qu'au fond, ce travail nocturne, on peut l'imaginer, permet vraiment de toucher du doigt le processus romanesque de l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain, quand il est à cette table, ne décrit pas les choses qu'il voit, il décrit les choses qu'il a dans son esprit. Quand on dit que Balzac est un écrivain réaliste, il n'est pas réaliste du tout, mais Balzac va décrire de façon extrêmement précise un monde imaginaire d'une précision absolument incroyable.
Un galérien de plumes et d'encre, c'est ainsi que se définit lui-même Balzac. En quête de perfection, il corrige, allonge le texte, rature les lignes, déplace des passages. Les pages 17 et 18 du roman deviennent soudain l'introduction. Les allers-retours se multiplient chez l'imprimeur. On peut compter jusqu'à 17 épreuves pour une seule et même histoire. Son meilleur allié, au cours de ces nuits blanches et studieuses, c'est le café. Un mélange bourbon, mocha, martinique qu'il achète aux meilleurs épiciers de Paris. Sa précieuse cafetière en porcelaine offerte par son ami Zul Makaro en 1833 est d'ailleurs exposée dans la maison.
Oui, c'est une cafetière dite à la Dubélois. En fait, c'est une chauffeuse, c'est-à-dire qu'il y a en dessous de quoi maintenir une petite bougie qui va maintenir le café au chaud. Et le contenant est assez... n'est pas très important. Mais en réalité, Balzac devait faire une consommation de café prodigieuse. On a ses comptes, donc on sait qu'il consommait jusqu'à 15 fois la moyenne des consommateurs de café parisien de l'époque. Alors, il n'était pas tout à fait à dose létale, mais presque. Et Balzac s'est rendu malade avec le café, véritablement. C'est ce qu'il appelle un excitant moderne. Balzac a écrit un texte qu'il faut absolument lire, qui s'intitule « Le traité des excitants modernes », dans lequel il passe en revue les drogues de l'époque, qui sont l'alcool, le thé, le café et le tabac. Et alors, c'est extraordinairement drôle, c'est très vivant, et quand il parle du café, là il sait vraiment de quoi il parle, parce que le café il en a pris, et il explique, il prend une cafetière et vous avez plein d'idées à la tête, ensuite il faut augmenter les doses, et puis au bout d'un moment ça ne suffit plus, donc il va falloir travailler différemment et vous allez devoir commencer à pressurer véritablement votre mare pour en extraire le sucre le plus intense, et puis après ça ne suffit toujours pas, donc là il va falloir arriver finalement à une méthode ultime que Balzac ne recommande qu'aux personnes taillées en Hercule, à la peau brune et au teint mat, avec des mollets comme des balustres, enfin des forces de la nature. Et là, il s'agit de broyer grossièrement le café, de l'humidifier à peine avec de l'eau froide et d'avaler ça à jeun. Donc cette mixture tombe dans votre estomac qui, et ça on le sait depuis Brillat Savarin, est tapissé de très fines papilles extrêmement sensibles et ça produit sur les papilles à peu près le même effet que des coups de fouet sur un jeune cheval. Donc aussitôt des étincelles vont monter au cerveau et là tout s'agite et Balzac a des pages extraordinaires pour expliquer ce phénomène justement d'entraînement d'esprit. Mais, dit Balzac, une fois que vous en êtes arrivé là, eh bien là il faut s'arrêter parce que la nature sinon ne peut pas suivre et à ce moment-là vous devez donc passer au blanc de poulet et à l'eau tiède et mener, comment dit-il, la vie niaise et cryptogamique des bourgeois retirés.
Alors, il y a un autre objet qui est exposé ici, c'est une canne, une très jolie canne sertie de turquoise, hein, c'est bien ça ?
Oui, elle a un pommeau, un énorme pommeau en or couvert de turquoise. C'est une canne extrêmement étonnante, d'abord parce qu'elle est énorme. Quand on connaît les cannes de dandy, elles sont très fines, fines comme un petit doigt. Celle-ci a un jonc qui est vraiment d'une épaisseur considérable et tous les contemporains de Balzac se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce gourdin ? Qu'est-ce que c'est que cette massue ?» Et donc après, les caricaturistes vont s'en emparer et vont se dire « Mais attention, si vous allez chez Balzac, il va vous donner des coups de canne et si elle était aussi lourde que son style, vous êtes mal parti. » Et cette canne a un pommeau d'or qui est énorme avec des turquoises. Or, les turquoises, dans le langage des pierres que l'on connaissait au XIXe siècle, symbolisent la pureté virginale des jeunes filles. Quel rapport avec Balzac qui a les joues bien rouges, qui n'a pratiquement pas de coups, qui est jovial, qui est assez costaud. Bon, aucun rapport. Et puis, on a un collier de jeune fille, on a enfin un petit couvercle qui souffle. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce couvercle? Est-ce que c'était une mèche de cheveux de sa maîtresse? Est-ce que c'était un portrait de sa maîtresse? Est-ce que c'était un portrait de sa maîtresse dans une tenue que la morale ne saurait approuver? On n'en sait rien. Toujours est-il que cette canne a fait couler beaucoup d'encre et qu'une des amies de Balzac, Delphine de Girardin, a même écrit un roman, La canne de Monsieur de Balzac, dans lequel elle explique qu'en fait, cette canne est magique. Elle est magique parce que si vous la prenez dans la main gauche sans gants, vous devenez invisible. Et, explique l'auteur, en fait, c'est grâce au pouvoir de cette canne que Balzac peut subrepticement rentrer dans l'hôtel particulier du banquier, dans l'arrière-boutique de l'épicier, dans la chambre de l'ouvrière. Il entend les gens soliloquer. Il vous met tout ça dans les romans. Ça a l'air plus vrai que vrai. On admire l'artiste, mais c'est du charlatanisme. C'est la canne qu'il faut admirer. L'auteur n'a trouvé tout au plus que le moyen de l'utiliser. Voilà. Donc le texte est assez drôle. Mais surtout, cette canne montre justement la capacité de Balzac de susciter des mythes dès son vivant. Et ça, si vous voulez, il y a extrêmement peu d'artistes qui ont réussi à faire ce genre de choses. Donc pour nous, la canne, c'est à la fois l'emblème du dandy, l'emblème de l'écrivain, et c'est aussi d'une certaine manière le sceptre de l'écrivain.
Direction maintenant la cuisine. Louise Brognaud, qui l'occupe, sera un peu plus qu'une servante pour Balzac. Il vit avec elle de manière quasi maritale durant les 7 années qu'il passe ici, à Passy. Cette pièce du musée est consacrée aujourd'hui aux amours de l'écrivain. Balzac restera toute sa vie plutôt discret sur ses conquêtes. Sa correspondance et certains de ses romans permettent quand même de lever le voile sur ses histoires d'amour, à commencer par celle qu'il a vécue des années plus tôt, en 1821, avec Laure de Berny.
La première maîtresse de Balzac, par exemple, c'est Madame de Berny. Les Berny, c'est à l'époque la famille Balzac, tous les Balzac sont à Châtenay-Malabry, et au bout de la rue, il y a une maison dans laquelle habitent les Berny. Et les parents de Balzac, du jeune Honoré, sont très contents qu'il y aille, parce que chez les Berny, il y a des jeunes filles qui ont 16-17 ans, puis qui ont une particule. Donc les Balzac n'ont pas de particule. Ce serait très flatteur pour la famille qu'ils puissent épouser une noble. Sauf que Balzac ne va pas tomber amoureux des filles, il va tomber amoureux de la mère, qui a 45 ans, qui a 9 grossesses à thème, qui est déjà grand-mère, 45 ans à une époque où il n'y a pas de soins dentaires, où il n'y a pas de chauffage, où les transports se font dans des conditions épouvantables, c'est pratiquement l'équivalent de 60 aujourd'hui. Balzac tombe amoureux. Et dans un premier temps, Laure de Berny considère ce jeune homme qui bafouille, etc., avec amusement, mais elle n'y croit pas. Ça fait 15 ans pour elle que sa vie sentimentale est passée. Et puis, au bout d'un moment, elle va se laisser convaincre et ils vont échanger des lettres. On les a conservées, ces lettres. Elles sont très, très touchantes. Laure de Berny écrit merveilleusement. Et Balzac, lui, ne sait pas encore écrire. Donc, il va envoyer des lettres qui sont assez confuses, mais pleines d'enthousiasme. Ce sont des lettres de jeune homme. C'est très touchant.
Oh, Laure! C'est au milieu d'une nuit pleine de toi, au sein de son silence et poursuivi par le souvenir de tes baisers délirants que je t'écris. Et quelles idées puis-je avoir? Tu les as toutes emportées. Oui, mon âme tout entière s'est attachée à la tienne, et tu ne marcheras désormais qu'avec moi. Oh, je suis environné d'un prestige tendrement enchanteur et magique. Je ne vois que le banc, je ne sens que ta douce pression, et les fleurs qui sont devant moi, toutes desséchées qu'elles soient, conservent une odeur enivrante. Tu témoignes des craintes et tu les exprimes d'un ton déchirant pour mon cœur. Hélas, je suis sûr maintenant de ce que je te jurais, car tes baisers n'ont rien changé. Aussi, je suis changé. Je t'aime à la folie.
Lettre de Madame de Berny à Balzac, vers 1824.
Pourquoi faut-il, chérie, que si heureux par nous, nous soyons si gênés par ce qui nous entoure? Quel doux plaisir j'aurais eu à te faire lire à Villeparisis une nouvelle assurance de mon amour. Dans ces lieux si chers, si riches en souvenirs, loin du tumulte, au sein d'un repos qui plonge l'âme dans le vague et la méditation qui la rend si apte à se poser avec charme sur son plus cher objet. Comme je serais venue avec joie me montrer tout entière au regard de mon bien-aimé dans une lettre chérie, en lui peignant avec la vive exaltation que par lui et pour lui, j'éprouve sans cesse ce bonheur, cette vie pleine, entière, réelle, cette vie dont parle Chénier, cette vie qui en vaut mille, puis mille encore, et que je tiens de lui. J'aurais cherché à faire naître un instant, à ses yeux, les fleurs qu'en ce moment la nature refuse aux vulgaires, en lui chantant sous toutes les formes, dans toutes les modulations, notre doux refrain d'amour. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Tu es pour moi plus que l'air pour l'oiseau. plus que le soleil pour la terre, plus que la nature pour l'âme.
Autre amour de Balzac, cette fois-ci un peu plus étonnant, c'est Caroline Marbouty. Caroline Marbouty est une jeune femme divorcée que rencontre Balzac à Paris juste avant un voyage qu'il doit faire en Italie. Et il se dit quand même, c'est pas possible, je vais pas laisser ça en plan. Du coup, il convainc Caroline Marbouty de l'accompagner, et comme il n'a absolument pas les moyens de l'accompagner en tant que, de la faire venir en tant que femme, parce qu'à ce moment, il faudrait qu'il y ait des bagages, il faudrait qu'il y ait une femme de chambre, etc. Eh bien, il va l'obliger à se déguiser en homme. Et donc, ça n'est plus Caroline Marbouty, c'est Marcel qui accompagne Balzac pour le plus grand émoi des Italiens, qui évidemment voit immédiatement la différence. Et donc, voilà, ils vont passer séjourner ensemble en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? On ne sait pas. On a de belles lettres, on a une très belle histoire. Une autre histoire, c'est celle avec Henriette de Castres. Henriette de Castres est une noble d'une grande famille française dont Balzac va tomber complètement amoureux, et à un moment, il va penser qu'Henriette de Castres va lui céder. Donc, il va la retrouver à Aix-les-Bains, et puis finalement, il ne se passe rien. Balzac est horriblement frustré, et pour se venger, il va écrire un roman, La Duchesse de Langeais, dans lequel il va montrer tout l'égoïsme d'une jeune femme qui peut allumer complètement les hommes, pour prendre un terme contemporain, et pour ensuite les laisser totalement frustrés. Donc c'est une vengeance littéraire qui n'empêche qu'ils vont rester bons amis ensuite pendant assez longtemps, et Henriette de Castres sera aussi celle qui va d'une certaine manière guider Balzac vers le légitimisme, même si les théories politiques de Balzac sont à prendre avec beaucoup beaucoup de recul.
Madame de Langeais apprit, jeune encore, qu'une femme pouvait se laisser aimer ostensiblement sans être complice de l'amour, sans l'approuver, sans le contenter autrement que par les plus maigres redevances de l'amour, et plus d'une sainte nitouche lui révéla les moyens de jouer ces dangereuses comédies. La duchesse eut donc sa cour, et le nombre de ceux qui l'adoraient ou la courtisaient fut une garantie de sa vertu. Elle était coquette, aimable, séduisante jusqu'à la fin de la fête, du bal, de la soirée, puis, le rideau tombé, elle se retrouvait seule, froide, insouciante, et néanmoins revivait le lendemain pour d'autres émotions également superficielles.
La seule qu'il épousera s'appelle Evanska. Après avoir entretenu avec sa maîtresse une correspondance pendant plusieurs années, Balzac s'unit le 14 mars 1850 avec celle qu'il appelle son loulou chéri. Ils ne resteront mariés que 5 mois, puisque l'écrivain meurt dans son hôtel parisien le 18 août 1850, à l'âge de 51 ans. Ainsi s'achève ma visite de la maison de Balzac. Si ce voyage dans l'intimité et l'œuvre du grand écrivain vous a plu, rendez-vous 47 rue Raynouard dans le 16e arrondissement, à Paris. Dans le calme du jardin, vous profiterez aussi d'une vue unique sur la tour Eiffel.